Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse depuis la maison de la radio et de la musique, le nouveau nom de notre belle maison. Que vous l'aimiez ou que vous le détestiez ou qu'il vous laisse indifférent, ce grand personnage de l'histoire a durablement influencé nos modes de vie. Napoléon, que l'on célèbre à l'occasion du bicentenaire de sa mort, et notre démocratie française doit beaucoup à l'état de droit fondé paradoxalement par un empereur autoritaire, certains diront un dictateur. Revue ce matin du legs napoléonien sous forme de kaléidoscope, qu'il s'agisse du code civil, du corps des sapeurs-pompiers, de la numérotation des rues, de la gendarmerie, du lycée, des fontaines parisiennes ou encore du veau maringo. On s'intéressera également aux divers goûts de Napoléon, qu'il s'agisse de mobilier ou d'architecture. Et nous n'éluderons pas la question du rétablissement de l'esclavage par Napoléon Bonaparte et des conséquences encore aujourd'hui dans notre inconscient national. Vous pouvez participer à notre conversation sur la page Facebook de l'émission, sur l'appli France Inter et au standard 01 45 24 7000. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien Vous Fasse.
Dans la tête toute la journée. Bonjour Arthur Chevalier.
Bonjour.
Écrivain, éditeur, vous êtes l'un des commissaires de l'exposition événement Napoléon à la Grande Halle de la Villette à Paris jusqu'au 19 septembre prochain. France Inter est partenaire de cet événement et vous avez publié un Que sais-je consacré à Napoléon et le bonapartisme. Bonjour Philippe Costamagna.
Bonjour.
Vous dirigez le musée des Beaux-Arts d'Ajaccio et vous publiez chez Grasset un livre absolument passionnant, Les goûts de Napoléon. Alors Arthur Chevalier, si vous deviez présenter Napoléon à une intelligence extraterrestre, qu'est-ce que vous diriez si vous deviez prélever la substantifique moelle napoléonienne? Napoléon Bonaparte, né en 1769 à Ajaccio et mort le 5 mai 1821 sur l'île de Sainte-Hélène. Mais encore, ça tombe sur vous, Arthur Chevalier.
Déjà, je lui dirais qu'il pourrait gagner 10 ans d'études juste en zappant la Révolution française et en regardant Napoléon. Parce qu'en fait, à mon sens, Napoléon Bonaparte, c'est l'incarnation personnifiée à la fois de ce que la Révolution française a produit de meilleur et de ce qu'elle a produit de pire. À la fois en termes politiques, mais aussi en termes de tempérament. C'est-à-dire qu'il l'incarne, il la représente, on va même dire il la multiplie, non seulement par sa vie, ses convictions, sa façon de faire de la politique, en tout cas jusqu'en 1808, mais aussi par son tempérament. Il est un homme de la Révolution, et je crois qu'en cela, il démarre le 19e siècle.
Quel est son tempérament, justement, sa psychologie? On est dans Grand Bien Vous Fasse.
C'est quelqu'un qui a un tempérament excessivement capricieux, tempétueux, qui supporte très mal la contradiction, qui dans le même temps est très sentimental, clanique, donc qui passe son temps à réclamer aux autres une grande loyauté, dont il fait en gros lui aussi preuve jusqu'à un certain point. On dirait, avec des stéréotypes un peu stupides mais révélateurs, qu'il est un peu méditerranéen dans le pire sens de l'idée qu'on se fait du terme. Voilà.
Philippe Costamagna, comment présenteriez-vous Napoléon à quelqu'un qui n'en aurait jamais entendu parler?
Alors pour moi, Napoléon, c'est l'enfant de la Révolution, je suis tout à fait d'accord avec Arthur. Et la circonstance a fait que il est arrivé au pouvoir et il est d'une intelligence exceptionnelle quand même, tout en ayant des lacunes, et il se forme, disons, au fur et à mesure de son accès vers le pouvoir et au pouvoir. Mais il croit beaucoup ce qu'il fait. Disons qu'il après c'est vrai qu'il est il a beaucoup de défauts, hein, il est bourré de défauts, il est effectivement caractériel comme le dit Arthur, il est aussi, mais il a une chose, sa qualité principale pour moi, c'est un homme extrêmement fidèle. Il est d'une fidélité exceptionnelle, les gens de son entourage, il l'a montré, et toute trahison il le prend mal évidemment parce que lui ne trahit personne, pour résumer Napoléon, je pense, il est comme il est, mais il nous a apporté tellement. Nous sommes que des faux aussi, hein. Donc c'est une, à nos démocraties modernes, il est finalement, même s'il a été un peu autoritaire, il est la base de nos démocraties, je dirais presque molles.
Et on y reviendra ce matin. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, comment est né votre intérêt pour Napoléon, Arthur Chevalier?
Je crois que ça vient, mais comme d'ailleurs c'est assez intéressant sur Napoléon, c'est-à-dire que c'est la chose qui marche le mieux à la fois avec les enfants et les adultes, c'est-à-dire que c'est une chose d'enfant spontanément, pour un petit garçon on va dire, ça parle quoi. Je veux dire, voilà, ce sont des petits soldats, quelqu'un qui tout à coup passe son temps à cheval, arrive à faire une conquête. Bref, il y a une volonté de puissance chez Napoléon qui, je crois, parle à peu près à tous les petits garçons. Donc je pense que j'allais aux Invalides avec mon grand-père quand j'étais petit, j'en suis même sûr. Et puis au fur et à mesure, on revient avec un livre, deux livres, trois livres, et puis ça devient votre métier.
Et un optimisme de la volonté aussi ?
Oui, il y a un optimisme de la volonté, parce que quoi qu'on pense de Napoléon et quelles que soient les aspérités de son caractère, il y a une chose évidente qui est qu'il y a une chose qui parle à tout le monde, c'est qu'il a soumis la vie. Et ça, soumettre la vie, c'est une chose quotidienne pour tout le monde. C'est-à-dire que la vie s'oppose à nous en permanence, dans notre vie privée, notre vie sentimentale, notre vie professionnelle aussi parfois. Et que faisons-nous au quotidien, si ce n'est essayer de la soumettre, de danser avec elle, pour qu'à la fin, elle nous favorise. Donc ça, je crois que Napoléon tout de même, même si la fin est tragique, il y a un exemple de ça qui est éloquent et qui parle à n'importe quel tempérament d'être humain, je veux dire.
Philippe Costamagna.
Oui, alors Napoléon, effectivement, comme un petit garçon que j'étais, on m'a mis dans une chambre avec des papiers à raies bleus, du mobilier en pierre et des petits soldats en plomb et des gravures de bataille napoléonienne. Et puis après, évidemment, je me suis détaché de Napoléon parce que je trouvais ça tragique. Je veux pas vous raconter, mais donc, j'avais un passé un peu révolutionnaire. Et donc Napoléon représentait ce qu'il ne fallait pas. C'était l'horreur la plus totale. Et puis après, on a une certaine maturité. Quand j'étais amené à diriger le musée des Beaux-Arts d'Ajaccio, je suis forcément consacré... confronté à Napoléon et à la famille Bonaparte. Et comme je dois faire un musée dédié à Napoléon qui devrait ouvrir en 2024, je me suis intéressé avec distance, mais avec passion quand même.
Arthur Chevalier, vous êtes un peu agacé quand on raisonne de façon binaire à propos de Napoléon, amour, haine, j'aime pas Napoléon. Ce raisonnement manichéen en dit long sur notre époque. Notre manière de raconter Napoléon en 2021 raconte notre société.
C'est moins la binarité qui m'énerve que l'ordre qui consiste à penser qu'on doit avoir un rapport affectif à Napoléon. Par exemple, ce bicentenaire est tout à fait révélateur à cet égard. C'est-à-dire que, tout à coup, c'est un référendum, un plébiscite, dirons-nous, pour ou contre la personne de Napoléon. Il ne s'agit pas de ça. Et d'ailleurs, les historiens, je trouvais ça très frappant. Enfin, je trouve ça très frappant depuis 6 mois. On passe notre temps à nous demander, en gros, d'excuser ou de justifier ce qu'a fait Napoléon. Or, à titre personnel, je ne me sens pas lié par ce qu'a fait Napoléon. À la limite, en tant que Français, je me sens lié parce que c'est mon histoire, mais comme vous tous autour de cette table, si vous voulez. Donc en fait, c'est juste le rapport affectif à Napoléon qui me paraît être une grave erreur intellectuelle, et puis une forme de bêtise aussi.
Pourquoi ?
Je veux dire. Mais parce que Napoléon est devenu un sujet froid, si vous voulez. On peut bien sûr avoir un rapport spontanément amoureux à Napoléon, ça n'est pas interdit, il y a des passionnés, et c'est très bien comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, à l'occasion d'un bicentenaire, il faut le voir comme un sujet froid de l'histoire. C'est-à-dire que il est là pour être raconté, pour être contextualisé, et puisque c'est le sujet de cette émission, à la fin, il est à l'origine de tellement de choses en France, pas seulement matérielles, mais aussi spontanées dans notre caractère, notre tempérament, on va dire même dans notre façon de communiquer, puisque c'est la première fonction du droit, organiser la communication entre les hommes, que si vous voulez, ne pas vouloir s'intéresser à quelqu'un comme ça, c'est ne pas vouloir s'intéresser à soi-même. Donc, à titre personnel, je pense que il est assez difficile de penser qui on va devenir sans comprendre comment est-ce que nous sommes devenus ce que nous sommes.
Alors dans l'exposition de Napoléon, vous n'éludez pas certains sujets sensibles, comme le rétablissement de l'esclavage en 1802 ou de la mise en laisse des femmes dans le code civil. Le rétablissement de l'esclavage d'abord. Pourquoi Napoléon a-t-il rétabli l'esclavage ? Lui qui, on l'a dit, a accompli bien des promesses de la Révolution. Pourquoi l'a-t-il oublié l'universalisme des Lumières ?
Alors, donc effectivement, l'esclavage avait été aboli en 1794. Rappelons que la France était le premier pays occidental à l'abolir. Il le rétablit effectivement en 1802. Il le rétablit parce qu'il signe un traité de paix, le premier depuis le début des guerres de la Révolution, qui s'appelle le traité d'Amiens, dans lequel la France récupère ses Antilles, qui étaient occupées par les Anglais, si vous préférez, pour résumer. Et donc Napoléon a un projet américain, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a les Antilles, la Louisiane, et puis on gagne beaucoup d'argent avec le sucre. Or, à l'époque, et ce sera vrai pour encore 6 ou 7 ans, la seule façon de produire du sucre, c'est la canne à sucre. On inventera ensuite le sucre de betterave à la fin des années 1800. Et donc il y a une grosse pression de la part des lobbies sucriers qui enjoignent Napoléon à rétablir l'esclavage en lui disant « si tu veux créer une zone de commerce aux Antilles, donc entre guillemets dans ce projet américain. Pour qu'on soit concurrentiel, il faut qu'on ait des esclaves. Napoléon va donc céder au lobby sucrier, en quoi il aura bien évidemment tort, puisque outre d'être un crime à l'évidence, ça sera parfaitement inutile, puisque ces Antilles, on va les reperdre très vite, et qu'on va inventer le sucre de betterave, donc c'est un coup pour rien, et tu es évidemment une grave erreur. Mmh.
Quelle est l'influence de cette funeste décision en 2021 dans l'inconscient national?
Disons que c'est-à-dire que pour certaines personnes, et je peux le comprendre d'ailleurs, je comprends que l'esclavage soit un traumatisme, il n'y a pas de problème avec ça, c'est assez audible si vous voulez, mais ça devrait donc être une raison qui annulerait tout ce qui s'est passé par ailleurs. Donc d'une part, ça voudrait dire que Napoléon ne serait pas intéressant ou digne d'intérêt par ailleurs, et d'autre part, ça voudrait dire aussi que tout à coup, il y aurait une grande culpabilité du régime napoléonien, mettons, de la France, et qu'aujourd'hui, on ne voudrait pas l'absoudre. À mon sens, c'est absurde, puisqu'il faut, très simplement, accepter évidemment que le rétablissement d'esclavage est du fait de Napoléon, que c'est un crime, et que c'est l'histoire, c'est comme ça. Et je pense que dans l'inconscient, ça joue juste, comment dirais-je, ça laisse traîner l'idée, et c'est pas bon d'ailleurs, qu'on ne veut pas se confronter à notre passé. Qu'on veut idéaliser tout ce que la France a été. Or, mais ça vaut pour le rétablissement d'esclavage, mais ça vaut aussi, et sûrement on en parlera ensuite, pour bien des décisions de Napoléon, on se fait une idée de la France à l'époque qui n'est pas juste. C'est-à-dire qu'au moment où on invente la modernité politique, entre guillemets, où l'État se rationalise dans des proportions quasiment inégalées, la société française est aussi excessivement conservatrice. Par exemple, vous parliez des femmes. La situation des femmes depuis 1795, donc sous la Révolution française, elle est catastrophique. Elles n'ont plus aucun droit, ni civil, ni politique. Donc il faut juste se rappeler que la Révolution française, pour révolutionnaire qu'elle ait été d'un point de vue politique, sociétalement parlant, c'est une révolution qui est vraiment empreinte d'un puritanisme bourgeois très prononcé, et ce, d'autant plus qu'elle s'oppose à l'idée qu'on se fait de la haute aristocratie à l'époque, à savoir très libertine, quoi. Très
Alors, Arthur Chevalier, que raconte l'exposition Napoléon depuis son arrivée au collège de Brienne en 1779 jusqu'au second exil à Sainte-Hélène en 1815? L'idée, c'est de montrer que le consulat puis l'empire ont fondé notre modernité.
Oui, c'est-à-dire que l'idée, c'était de montrer... L'exposition, elle s'organise de la façon suivante, c'est que Napoléon est le personnage principal, l'histoire de France en est le décor, donc on a essayé de comprendre, enfin, on a essayé de montrer aux gens comment est-ce que la vie d'un homme avait, par ailleurs, s'était confondu avec une époque et avait influencé effectivement un cadre politique à la sortie de la Révolution française, quelque chose qui allait continuer tout au long du 19e, donc je l'ai dit, c'est la rationalisation de l'État, et par ailleurs, d'essayer aussi, et ça c'est très important, de montrer que Napoléon, c'est pas un miracle. C'est pas... un rêve démiurgique, c'est quelqu'un qui sort d'un moment qui le précède, de la Révolution. Que sa carrière, elle s'explique, si vous voulez. Que ses convictions, elles s'expliquent, et plus encore peut-être, et dans l'exposition, on a particulièrement essayé de le montrer, c'est que cette aventure, elle correspond avec l'aventure de la France de l'époque, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a évidemment une partie intime, une partie quotidienne de Napoléon, mais ça c'est lié à sa personne, mais qu'elle s'inscrit dans des désirs, dans un contexte très particulier, où les impérialismes de toutes sortes en Europe s'affrontent, où le bellicisme n'est pas l'exception, mais la règle, vous voyez. Donc, c'est-à-dire que les guerres aujourd'hui ont fatalement une réputation scandaleuse, mais ça n'était pas le cas à cette époque, où la paix était un état d'exception. Donc on a voulu contextualiser un maximum, on va dire, pour que les gens comprennent que cette époque fondatrice de leur modernité politique était aussi, comment dirais-je, le centre d'une vie, d'une société qui leur est très étrangère.
Dans quelle mesure doit-on à Napoléon l'état de droit dans lequel nous vivons ?
Si on n'a pas l'état de droit, quelque chose qui garantit la sécurité juridique, on lui doit dans la mesure où, grâce à Napoléon, vous savez désormais que quand vous entrez dans un tribunal, vous ne pouvez pas être jugé d'après des règles que vous ne connaissez pas auparavant. Mmh. Autrement dit, le Code civil, le Sénat, qui était la première cour constitutionnelle de France, pour le dire comme ça, permet à tous les Français de savoir qu'ils ne pourront pas être jugés de façon, entre guillemets, arbitraire. Je tempère tout de suite cette assertion, puisqu'en 1810, un code d'instruction criminelle sera promulgué, dans lequel Napoléon va rétablir, non pas la lettre de cachet, ça n'emportera pas le nom, mais un droit discrétionnaire d'emprisonnement, si vous voulez, et donc il annulera absolument toute cette belle machine. Mais
pourquoi
il n'empêche que...
Pourquoi?
Oh, il le fait parce que, premièrement, il juge qu'il y a un laxisme dans les tribunaux, ce qui n'est pas complètement faux d'ailleurs, effectivement, il y a une forme de laxisme après la Révolution française, qui était un petit peu volontaire dans la mesure où ça avait tellement dégénéré, si on veut dire, avec la terreur et compagnie, qu'on voulait détendre tout ça. Et puis la France aussi, grâce aux guerres, s'était beaucoup enrichie, connaissait une période de gloire. Donc il fallait laisser respirer les gens. Mais Napoléon juge à un moment donné que, d'un côté, lui tord les règles, l'autocratie, entre guillemets, augmente. Donc évidemment, fatalement, il faut aussi qu'il y ait un appareil coercitif qui fonctionne.
Étrange analogie avec notre époque, autour des débats, autour de la justice.
Bah bien sûr, c'est-à-dire que plus un régime est contesté, en 1810, l'Empire commence à être contesté. Paradoxalement, il est au fait de sa puissance politique, et dans le même temps, au sein de la société, il commence à être contesté. Les préfets le rapportent tous. Donc, comme tous les régimes qui commencent à sentir qu'ils ne sont plus naturels à qui ils s'appliquent, eh bien, ils se radicalisent. Effectivement, aujourd'hui, c'est évident.
Philippe Costamagna.
Oui, alors, je ne sais pas si on repart depuis le début. Je trouve on a Napoléon effectivement n'est pas ce garçon aussi la révolution disons a un peu troublé certains acquis du siècle des Lumières et en particulier pour les femmes étaient extrêmement libres pendant le siècle des Lumières, elles prenaient des décisions, elles tenaient des salons et Napoléon a peur des femmes en fait quelque part à un certain moment peut-être par sa formation méditerranéenne, ce clanisme maternel dans lequel il a grandi, parce que le père est, disons, rejeté, absent, mort, et surtout il n'aime pas son père, donc sa figure titulaire c'est sa mère, et puis il a peur des femmes qui pensent, donc il a peur de Madame de Staël, il trouve que peut-être il connaît la qualité de l'intelligence des femmes et il le redoute. C'est un militaire avant tout et il a beaucoup appris. Il a pris ce qu'il pouvait prendre de Joséphine dans toute sa qualité intellectuelle. Et puis après, une fois que c'est pris, il les met de côté, disons. À part Joséphine, bien sûr, qui était toujours sa grande passion.
Arthur Chevalier.
On parle des femmes, là? Pardon, excusez-moi. Oui, alors, bon, pareil, rapport affectif à Napoléon, on dit beaucoup Napoléon était misogyne. On n'en sait rien. Je veux dire, qu'est-ce que les gens savent que Napoléon était misogyne? Napoléon, a priori, n'aimait pas trop que les femmes se mêlent de politique, c'était sûrement pas le premier en France. Il avait tort, bien sûr. Non, Napoléon a cristallisé dans le code civil, effectivement, une situation légale qui était déjà en vigueur depuis 1794. Voilà, ça, il l'a fait. Mais il ne se démarque pas beaucoup de la Révolution.
Et on va y revenir dans quelques instants. On s'intéressera aux innovations napoléoniennes qui irriguent encore notre vie quotidienne. On évoquera également les goûts de Napoléon et également en fin d'émission la route Napoléon prisée par les amateurs de randonnée à moto ou pédestre. En attendant, on écoute un titre de circonstance. Waterloo Sunset, les Kinks.
Sunset's fine. Millions of people swarming like
les Kings, Waterloo Sunset.
J'ai hélé un taxi aux Invalides, s'il vous plaît.
Grand bien vous fasse.
Et le chauffeur dans le rétro me dit, ah, mais je vous connais. Vous. Il me dit, qui êtes-vous? Si je suis Napoléon. Ah, il me dit, vous n'êtes pas le premier.
Sur France Inter.
10h26, ce que Napoléon a apporté à notre vie quotidienne, c'est notre thème ce matin. On s'intéressera également au goût de Napoléon en matière de mobilier ou d'architecture. Toutes vos questions au 01 45 24 7000. Tiens, Arthur Chevalier, vous connaissez cette expression québécoise, frapper son Waterloo?
Non, je ne la connais pas.
Eh bien, je ne la connaissais pas avant de présenter cette émission. Philippe Costamagna.
Je ne la connais pas non plus.
Ça veut dire connaître un échec, rencontrer un obstacle infranchissable. Ouais. Très belle expression québécoise, frapper son Waterloo. On connaît en revanche, c'est la Bérésina. Ça évoque une défaite cuisante, une déroute complète. Racontez-nous en deux mots peut-être la Bérésina.
C'est pas une défaite la Bérésina.
C'est pas une défaite, mais pourquoi dit-on c'est la Bérésina?
C'est la Bérésina parce que ça a été, puisque pendant la campagne de Russie, les armées françaises sur le retour en direction de la France ont dû traverser la Bérésina, qui est une grande rivière gelée effectivement. Donc ils ont dû traverser ça sur deux ponts de façon catastrophique. Beaucoup de soldats sont morts noyés, donc ça veut dire que c'est une catastrophe. Quoi.
Mais on a l'impression que c'est une défaite.
Oui, alors parce que la campagne de Russie est une défaite, mais en réalité le franchissement de la Bérésina était un acte militaire, comment dirais-je, assez courageux et miraculeux. C'est une idée de Napoléon qui a réussi par un effet de diversion à maintenir les Russes à la distance. Mais la Bérésina, entre guillemets, le fait de franchir cette rivière et d'échapper à l'armée russe, ça relevait vraiment du miracle.
Merci de rétablir la réalité historique. Alors, je rappelle que vous... Oui, allez-y, Philippe Costa.
Non, je dirais que Waterloo n'est pas une défaite. Pour moi, c'est la grande victoire de Napoléon. Parce que si Napoléon n'avait pas connu Waterloo, je pense que sa légende aurait été totalement différente. Parce que Napoléon a toujours rêvé d'avoir un monde littéraire à sa... tel qu'il l'aurait aimé, parce que c'était un grand lecteur, passionné du 17e, il aurait aimé avoir le siècle de Louis XIV. Et en fait, Waterloo, le départ de toute la grande aventure littéraire française romantique, c'est Victor Hugo, le maire de Waterloo, Stendhal démarre à Waterloo, tout démarre à Waterloo, et Waterloo, c'est la légende de Napoléon. Donc c'est sa grande victoire.
Vous êtes d'accord avec ça, Arthur Chevalier?
Je suis d'accord, Waterloo est quand même une défaite, mais effectivement, c'est le début de sa chute, et sa chute a permis effectivement de créer sa légende, même si je suis sûr que, même s'il n'avait pas chuté de la même façon, la légende aurait fonctionné aussi, mais effectivement.
Je rappelle que vous êtes co-commissaire de l'exposition Napoléon à la Grande Halle de la Villette, à Paris, jusqu'au 19 septembre prochain. Alors j'aimerais qu'on évoque le code civil que l'on appelle également Code Napoléon, qui a profondément changé le droit français, même si le code civil était un rêve des assemblées révolutionnaires. C'est en 1800, après la deuxième campagne d'Italie, que Bonaparte demande à Cambacérès de diriger une commission chargée de rédiger ce code civil, avec Bigot de Préameneux, Tronchet, Portalis et Malville. 4 mois seulement de rédaction, 36 lois, 2280 articles, 3 parties consacrées aux personnes, aux biens et à la propriété, et plutôt rédigées dans un style clair et concis. Peut-on dire, Arthur Chevalier, que le code civil a changé la face du droit français et qu'il a été un grand facteur d'égalité des citoyens devant la loi?
Oui, alors je précise juste que c'est non seulement un rêve des assemblées révolutionnaires, mais c'est un rêve de Louis XIV aussi, hein, qui déjà voulait unifier le droit français qui était séparé évidemment entre deux types de systèmes juridiques, au nord et au sud. Donc c'est un vieux rêve français que Napoléon accomplit. Ça change, puisque déjà pour commencer, et c'est encore une fois le prolongement de l'idée révolutionnaire, c'est la sécurité juridique. Voilà. Donc ça, on en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que désormais, une fois qu'une loi elle est écrite. Donc vous pouvez vous y référer. J'ajoute que le code civil est aussi un objet d'année pour Napoléon, parce que tout ce qu'on lui reproche, par exemple la position de la femme dans la famille, en situation d'infériorité incontestablement, on lui reproche beaucoup parce que vous avez le code. C'est-à-dire que vous avez un livre dans lequel vous pouvez voir comment étaient les choses. Alors que sous la Révolution française, les lois sont pas moins nombreuses et parfois pas moins réactionnaires, entre guillemets, ou conservatrices. Or, évidemment, c'est très difficile de faire le tri entre 4 assemblées qui ont changé très rapidement les unes les autres, où les choses bougeaient très vite. Donc vous pouvez pas vérifier. Mais du coup, le code civil, c'est aussi, on va dire, le témoignage permanent de la société napoléonienne. Et on lui attribue tous les mots en pensant que c'est lui qui l'a écrit tout seul. Mais voilà. Non, ça l'a changé aussi. Alors déjà, pour commencer, ça a une influence sur notre quotidien, parce qu'il y a plus de 45% du code civil qui est inchangé aujourd'hui. C'est quand même énorme.
45%.
Ouais, alors fourchette haute 48, fourchette basse 42, mais enfin vous êtes, c'est pour ça que voilà, 45, vous êtes sûr que vous y êtes, quoi, en tout cas, autour de voilà, entre 40 et 50. Donc ce que ça veut dire, c'est que quand même spontanément, on peut pas se dire que pour un peuple, ça n'a pas une conséquence très importante, c'est-à-dire que quand vous dites je vous aime, quand vous dites j'achète, quand vous dites je vends, quand vous dites je vous quitte, quand vous dites tu m'as volé, tout ça désormais ça a des conséquences. Non, mais je veux dire ce qui nous choque, ce qui veut dire quelque chose qui est signifiant pour nous vient de là. Donc c'est pour ça que Napoléon, c'est pas seulement un livre d'histoire, grâce au code civil, ou à cause du code civil, c'est l'influence directe sur une culture partagée. Et alors là, pour le coup, quelle que soit votre origine, votre couleur de peau, votre sexe, votre genre, vous êtes français, vous vivez avec ça et vous avez été éduqué comme ça. Donc on peut penser que le code civil pourrait être réécrit, pourrait être différent, mais en tout cas, il a une influence spontanée sur notre quotidien.
Notamment dans les successions, l'essentiel des dispositions du code Napoléon s'applique encore avec l'égalité des hommes et des femmes devant l'héritage.
Oui, absolument. C'est pour ça qu'il faut tempérer aussi certaines choses à propos de la famille inégalitaire qu'aurait construite Napoléon. C'est-à-dire que c'était très compliqué de trouver un équilibre entre une grande rationalisation, une grande équité, car c'est un vrai vœu de Napoléon, l'équité, l'égalité, ça reste une constante dans sa façon de faire de la politique, et aussi effectivement une organisation de la famille où Napoléon croyait en permanence que les femmes ne pouvaient pas avoir le moindre droit. Donc il a essayé de maintenir la cellule familiale et de la pérenniser, ce qui explique ce genre de règles en termes de succession, tout en s'assurant que les divorces devaient être le plus compliqué possible. Voilà, quasiment impossible. Voilà.
Alors le code civil a donc restauré la domination du pater familia, la domination de l'époux et du père au sein de la famille, la femme qui passe sous la domination du mari, mais on oublie bien souvent que quelques années avant, la femme n'avait aucun droit, aux alentours de 1795 par exemple.
Oui, voilà. Bon, alors effectivement, comme l'a très justement dit Philippe Costamagna tout à l'heure, sous l'Ancien Régime, les femmes avaient plus de droits qu'on le pensait, en tout cas à certaines époques. Par ailleurs, effectivement, dès 1794, l'Assemblée révolutionnaire se rend compte que les clubs de femmes sont parmi les plus radicaux, entre guillemets, les plus à gauche, on va dire ça comme ça, et donc décide très naturellement de les interdire et de retirer aux femmes, de façon scandaleuse évidemment, les droits politiques et civils qu'elles avaient acquis. On laisse le divorce néanmoins, qui a été institué en 1792. Je précise que Napoléon n'a jamais supprimé le divorce, que d'autres supprimeront ensuite en France pendant la Restauration. Donc effectivement, les femmes en 95, elles sont dans une situation politique exactement similaire à celle qu'elles auront dans le compte civil au début du consulat. Donc de ce point de vue, Napoléon n'a strictement rien changé, absolument rien. Et s'il les marginalise, c'est pas seulement pour des raisons de continuité, c'est aussi, et ce n'est pas pour ça que c'est bien, nous sommes bien d'accord, mais en se disant que les femmes, c'est un facteur d'agitation quand elles se constituent en société politique, au sens figuré du terme.
Et il a fallu attendre tout de même 1965 pour que les femmes mariées puissent exercer un métier sans l'autorisation de leur mari. J'aimerais qu'on évoque de nombreuses institutions qui existent encore aujourd'hui, évidemment. La police, la gendarmerie, le corps des sapeurs-pompiers, la Légion d'honneur également. On doit tout ça évidemment à l'ère napoléonienne.
Oui, là encore, souvent initié sous la Révolution française,
bien sûr.
Jamais à perte de vue. Oui, c'est-à-dire que Napoléon a eu à l'endroit de la Révolution française exactement la même fonction que Rome l'a eu à l'égard d'Athènes. C'est-à-dire qu'en fait, les Romains n'ont jamais eu la moindre idée. Ils ont pris toutes les idées athéniennes et ils ont eu la force, la vitalité et la discipline de les transformer en régime politique. Napoléon a fait exactement pareil. Effectivement, vous parlez par exemple des lycées. Un sujet intéressant, les lycées. Les lycées, c'est quoi? Les lycées, c'est c'est l'organisation rationnelle de l'instruction publique par l'État. Elle ne se fait pas de façon neutre, cette organisation, puisqu'elle se fait au détriment de l'Église, d'accord ? La Révolution française avait déjà essayé, et réussi d'ailleurs, à déposséder l'Église de l'instruction des enfants de la République, pour deux raisons. Premièrement, pour qu'ils soient formés à l'idée républicaine et pas à l'idée monarchique qui est assimilée, effectivement, avec Dieu. Et deuxièmement, pour créer une unité de langage sur le territoire, à savoir le français, qui part de Paris et qui rayonne ensuite dans tout ce qu'on appelait les provinces. Donc, par exemple, les lycées, c'était déjà quelque chose qui était tout à fait dans les cartons de la Révolution. Ça n'emportait pas le nom, ça n'en avait pas la structure, mais l'idée était là. Et bien, lui, il l'a consacré, le baccalauréat. De même, le baccalauréat permet de sanctionner l'apprentissage républicain chez une génération de Français. Cette organisation, cette sanction administrative permet donc ensuite d'accéder à des écoles qui elles-mêmes sont des écoles publiques, donc qui effectivement appartiennent à ce qu'on peut appeler la logique méritocratique républicaine. Par exemple, si on parle du Conseil d'État, qui est aujourd'hui encore une de nos institutions les plus importantes, le Conseil d'État, c'est le prolongement de ce qu'on appelait le Conseil du Roi sous l'Ancien Régime, que d'ailleurs parfois on appelait déjà le Conseil d'État sous Louis XVI. C'est à la fois une première cour de constitutionnalité, donc qui contrôle l'exercice du droit par le souverain. Napoléon, en 1814, abdique parce que le Sénat lui ordonne de le faire. Donc, quand on parle de dictature, par exemple, c'est assez intéressant. Donc voilà, ce sont des institutions qui l'organisent, mais qui, quand on regarde de près, elles étaient nées avant, parfois sous la fin de Louis XVI, parfois sous la Révolution.
Quelles sont les autres institutions que nous lui devons? Je pense à la Banque de France et à la création du franc germinal en 1800, c'est ça?
Oui, la création de la Banque de France, c'est deux choses. La première, c'est qu'il faut faire rentrer l'argent. C'est-à-dire que quand Napoléon prend le pouvoir sous le consulat, il n'y a plus d'argent, et il est convaincu que l'argent, il y en a en France, et qu'il y a des accapareurs, entre guillemets, qui le détiennent. Donc il faut créer une structure pour ça, il faut créer de la trésorerie aussi. Il faut créer une structure pour ça, et il faut créer une monnaie stable, effectivement, le franc germinal, qui sera la monnaie la plus stable de l'histoire de France.
Et qui disparaît qu'en 1928.
Qui ne disparaît qu'en 1928, exactement. Donc il a... D'ailleurs, rappelons aussi que s'il y a eu de la dette sous l'Empire, l'État n'était pas en déficit. Jamais. Ce qui fait rêver aujourd'hui.
Alors Arthur Chevalier, le parcours de Napoléon apparaît souvent comme un modèle d'ascension méritocratique, d'égalitarisme républicain. L'armée napoléonienne est l'un des symboles de cet égalitarisme, avec des soldats du rang devenus généraux ou maréchaux d'Empire. Je pense à Joachim Murat, fils d'aubergiste, simple soldat, qui rencontre Bonaparte en 1795 et qui devient son aide de camp en Égypte. Il épouse d'ailleurs la sœur de Bonaparte, Caroline, et il devient roi de Naples en 1808. C'est un modèle méritocratique.
Oui, c'est un avatar, effectivement, d'une génération, celle de la Révolution française, puisqu'en fait, il y a eu, sous la Révolution française, une grande fuite des officiers supérieurs, puisque l'accès à ce grade était réservé aux aristocrates, donc la plupart sont partis. Donc, en fait, on crée des généraux à tour de bras, si vous voulez, on va le dire comme ça. Napoléon, général de brigade à 24 ans, c'était un peu la base à l'époque, c'était pas si exceptionnel, quoi. Ses petits camarades avaient bénéficié de la même promotion et de la même rapidité. Murat est à l'image de ça. Bon, fils d'aubergiste, on en fait beaucoup.
C'est pas vrai.
Murat n'est pas né à la cour de Versailles, ça n'est pas un fils de baron, il n'y a pas de problème. Ouais. Maintenant, ses parents n'étaient pas si pauvres que ça. Mais il l'était, mais d'ailleurs, c'est pas Murat en soi, c'est la plupart des maréchaux, effectivement. Venait de famille relativement modeste.
Je pense à Masséna, né italien, fils de négociant en vin. Il aurait pu être boulanger, je crois, et il devient maréchal d'Empire. C'est pas un modèle méritocratique.
Et Murat aurait pu être à son
Murat est un gars formidable, on peut le dire, et c'est vraiment l'exemple même de cette arrivée de cette jeune génération. Mais il faut pas oublier que s'il a une couronne, c'est parce que sa femme, qui était la sœur de Napoléon, voulait à tout prix une couronne. Quand elle a été grande duchesse de Berg, ça ne lui allait pas, ça ne suffisait pas. Il fallait une couronne, et c'est quand même, c'est son mariage qui l'amène sur un trône, parce que Murat, quelque part, il était prêt à soutenir Napoléon, ce qu'il a fait tout le temps, du début à la fin. C'est l'exemple même de la fidélité, après la fin où il veut conserver son trône.
Mais cet idéal de promotion sociale reste encore vivace aujourd'hui. Ça nourrit aussi beaucoup de rêves en puisant dans l'histoire napoléonienne.
Mais on en parlait au début. C'est Napoléon, c'est-à-dire que c'est la volonté de puissance. C'est-à-dire que Napoléon, quoi qu'on veuille, c'est quand même... Alors, s'il n'est pas né dans une famille aussi modeste qu'on le dit, il partait quand même franchement de loin. rien ne le prédestinait à ça. Et donc, par sa vie, il vous démontre que la Révolution française n'est pas un mensonge. Il est la statue de la Révolution. C'est-à-dire que sinon... Très bien, vous avez pendant 10 ans des types qui ont beaucoup parlé, mais enfin, il a montré que la chose était possible. Que désormais, vous pouviez naître dans une maison relativement modeste d'Ajaccio, même pas sur le continent, et arriver aux Tuileries. Voilà. Donc ça parle.
Mais il a une chose pour lui, Napoléon, ce qu'il a par rapport aux autres, à ses petits copains, on peut dire, de révolutionnaires, il a sa culture littéraire. C'est un homme qui a énormément lu, très tôt. À Ajaccio, il y avait une bibliothèque, il la lit tous, il passe sa vie à lire, et il comprend que quelque part, ce qu'on appelait la culture à l'époque on appelait ça les sciences et les arts, c'était le seul moyen de se différencier des autres. Et c'est comme ça qu'il sort, il s'entoure de gens qui lui apportent quelque chose, qui lui apportent une connaissance, il le comprend dès la campagne d'Italie, et c'est comme ça, disons, après la campagne d'Égypte, qu'il arrive au pouvoir.
Bonjour Cédric, bienvenue.
Bonjour, la question avait plutôt trait avec l'héritage de la Révolution française et le fait que Napoléon s'était surtout appuyé sur la petite bourgeoisie, en tout cas qui était l'héritier de la petite bourgeoisie dans ses idées et dans sa façon d'être. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'elle était très porteuse des idées des Lumières, qu'elle était assez rétrograde dans sa façon d'être et assez peu ouverte au changement profond social, c'est-à-dire sur la femme et sur ces questions-là. Que c'est aussi eux qui avaient fait la révolution, et ce qui n'est pas en fait la parfaite incarnation, et a été porté par cette petite bourgeoisie.
Arthur Chevalier.
Oui, Napoléon, de toute façon, effectivement, Napoléon se méfiait de la haute société avec laquelle il ne se sentait absolument rien en commun. Il l'a dit d'ailleurs, c'était une classe qui réfléchissait avec le portefeuille. Donc effectivement, il s'appuyait plutôt sur la petite bourgeoisie. Le peuple, entre guillemets, même si il faut pas non plus rêver l'adhésion populaire à Napoléon, puisqu'il y avait des plébiscites, mais ils ont été relativement rares et truqués. Donc la façon dont on pouvait vérifier l'adhésion du peuple au sens modeste du terme à l'aventure napoléonienne, elle est quand même en, en gros invérifiable, même si il est vrai que Napoléon était très populaire auprès de ce qui se faisait en France de plus modeste. Oui.
Merci beaucoup Cédric pour votre question. Alors, j'aimerais qu'on revienne à l'influence de Napoléon dans notre vie quotidienne. Alors ça peut paraître anecdotique, mais on doit à Napoléon la numérotation des rues, les chiffres pairs à droite et ceux impairs à gauche, Arthur Chevalier.
Oui.
C'est une petite influence, mais quand même.
Non, mais bien sûr, ça va dans un plan général de réorganisation de Paris, effectivement, oui. De rationalisation de la ville. Et ça permettait, comme tout avec Napoléon, ça s'accompagne. C'est pour ça qu'il faut toujours penser juste en termes de contexte. Ça s'accompagne d'une rationalisation de l'économie aussi. C'est-à-dire que Paris devient une ville économique, devient la capitale d'un empire. Et donc, évidemment, tout ce que vous pouvez organiser, ordonner, pour rendre les choses plus efficaces, et surtout, qui permettent à tout le monde de vivre ensemble et d'échanger ensemble, Napoléon le faisait, donc le numéro des rues, c'est
exactement
ça.
Et je pense aussi aux trottoirs, aux égouts, à l'éclairage public, Philippe Costanier.
Napoléon rêvait d'avoir une capitale qui ressemble à la Rome antique. Il avait lu Pline, il voulait vraiment une ville moderne. Ouais. Et d'abord, la première chose, c'était les égouts et l'eau. C'est-à-dire, il fallait pouvoir se laver. Il a créé des fontaines dans Paris. Il en reste quelques-unes, mais il y en avait beaucoup. Ouais. Il a créé surtout des égouts parce que je pense qu'il avait un vrai problème depuis son enfance, c'est la mauvaise odeur. Il est terrorisé par les odeurs, depuis même qu'on lui apportait une femme trop parfumée, il n'en voulait pas. Il était... Et donc, il fallait que Paris sente bon. Et tout ce qu'il a fait pour Paris, aujourd'hui, d'abord, il fallait qu'il y ait des grandes rues. Il y avait la rue de Rivoli. Victor Hugo disait Rivoli en disant que c'était sans fin, parce que Victor Hugo n'aimait pas la rue de Rivoli. Mais il a apporté beaucoup de choses, mais il n'a eu que 10 ans hein, au pouvoir, donc il aurait pu faire un très grand pari. Il avait l'idée, Napoléon III et le baron Haussmann ne feront que reprendre l'idée du grand Paris.
Alors vous l'avez dit, Napoléon s'est engagé pour un accès à l'eau généralisée, gratuit, nuit et jour, pour tous les Parisiens, grâce à la construction de nombreuses fontaines, comme celle du Châtelet. Ces fontaines ont contribué à donner un nouveau visage à la capitale. Et ailleurs, dans d'autres villes en France, est-ce qu'il y a eu une influence napoléonienne ?
Absolument. Napoléon, d'abord, à un moment, a beaucoup aimé Lyon. Il a même hésité de faire Lyon de sa capitale. Il a fait le tour de la France. Il faisait le tour de la France avec ou sans Joséphine. Et il voulait toujours qu'il y ait des modèles partout, à créer jusqu'à La Roche-sur-Yon, qui était la Roche, qui est devenue vraiment la ville idéale napoléonienne, avec une caserne, un palais de justice, une mairie, tout ça, toutes les rues faites au cordeau. Mais voilà, donc il y a eu des villes qui ont eu davantage, évidemment Bordeaux, Marseille, Lyon ont été peut-être les villes les plus attirées, enfin parce que c'était les plus grandes villes et il fallait avoir un soutien napoléonien dans tous les différents points de la France.
Et puis on retrouve une empreinte napoléonienne dans la capitale avec les Arcs de Triomphe notamment.
Oui, alors ça c'était pour la gloire de l'armée, parce que sans son armée il n'était pas grand-chose, c'était surtout à Paris. Et donc il fallait que cette armée, ces soldats puissent, et les familles qui suivaient derrière, le soutiennent. Et donc, il faut pas oublier qu'après, quand Napoléon est parti à Sainte-Hélène, les Français n'ont pas jeté Napoléon. Donc, il y a toujours un espèce, c'est le seul dirigeant qui n'est... Ça a été vraiment les alliés, les ennemis de la France qui ont ramené une famille au nid. Donc là, le mythe de Napoléon devient de plus en plus grand, et c'est ces familles populaires, ces familles liées aux soldats qui mettra en avant le mythe.
Sur la marque de Napoléon dans la capitale, Arthur Chevalier.
Oui, alors, Philippe Costanier est très clair. Il y a une chose assez amusante sur l'obsession de Napoléon pour la Rome antique, c'est que Napoléon n'a jamais été à Rome de sa vie. Il n'a jamais mis les pieds à Rome. C'est quand même quelqu'un qui a fait chier tout le monde avec ça pendant 15 ans. Il n'a jamais, pardon pour l'expression, mais il n'a jamais mis les pieds à Rome.
Connaissance littéraire unique.
Absolument, il n'y a jamais mis les pieds. Donc c'est quand même assez intéressant, c'est tout à fait Napoléon.
Rome qui a été une préfecture de la République.
Oui, bien entendu, mais je veux dire, il n'y a jamais été. Il a été à Moscou, il n'a pas été à Rome. J'ai rien à ajouter à ce que dit Philippe, qui était très clair à part ça.
Alors donc là, c'est un meuble de style empire.
Tout le vocabulaire ornemental est antique. Vous avez ces bustes de femmes avec des ailes qui reprennent tout le vocabulaire égyptien.
De l'Égypte antique, des sphinx,
sphinx ailés. On se réattribue aussi les lions, tous ces animaux, les taureaux, Vous avez ces victoires ailées qui sont complètement antiques. Tout participe ici d'un vocabulaire antique. Ce type de meuble rencontre vraiment un grand succès à cette époque-là.
Percier et Fontaine sont les deux maîtres du style empire, qui ne se limitent pas qu'aux meubles. Ce vase reprend la forme d'une amphore. Percier réalise plusieurs dessins pour des porcelaines de Sèvres. Ici, des vues d'Égypte, ornées de hiéroglyphes. Là, de personnages de la Grèce antique.
Qu'est-ce qui va plaire à Napoléon dans ce style ?
C'est le côté ostentatoire et c'est le côté dynastique. Ça lui permet de s'asseoir dans l'histoire. Il y a des vases en Sèvres qui ont été faits avec des camées qui représentent les empereurs romains. Mais sous les traits de ces empereurs, on reconnaît bien Napoléon. Donc ça lui permet de légitimer son pouvoir vis-à-vis notamment des autres dynasties étrangères qui, elles, sont là depuis des temps immémoriaux, alors que la dynastie des Napoléons doit s'installer.
Extrait de l'émission Visite privée diffusée sur France 2, Philippe Costamagna. Je rappelle que vous publiez Les goûts de Napoléon. Le style empire est-il encore en vogue en 2021 ?
Oui, sans doute. Mais alors le style empire...
C'est quoi exactement, tiens ? Précisez peut-être ce qui a été dit là,
alors,
dans l'extrait
retour,
du reportage.
Le retour à l'antique n'est pas lié à mon Napoléon. Ouais. C'est vraiment inventé au XVIIIe siècle après la découverte de Pompéi. Et c'est vraiment toute la seconde moitié du XVIIIe siècle. Il y a même des éléments égyptiens qu'on trouve au XVIIIe siècle. Le directoire a un style épuré d'Égyptien qui est absolument magnifique. Et le style empire, c'est la même chose, disons un peu plus lourd, mais plus moderne, plus contemporain. Il y a certains meubles, surtout les derniers faits pour Trianon, ou qui sont des meubles, on a l'impression qu'on va voir même des meubles des années 20. Oui. Donc, cette côté extrêmement rectiligne, une constance dans les arts décoratifs, des allées et des retours. Mais le Napoléon, qui avait un goût, qui avait des idées particulières sur ce qu'il voulait chez lui, il voulait que ce soit commode, donc c'est lui qui invente les fauteuils qui tourne, c'est lui qui dessine même son bureau de Compiègne pour qu'on puisse le fermer très vite si quelqu'un rentrait pour cacher. Il a des idées, il aime le verre, alors on colle du verre partout dans ses appartements. C'est parce qu'il aime la nature, il a un besoin de nature toujours.
Il préfère d'ailleurs la campagne à Paris. Hein.
Oui, il déteste Paris. Enfin, il déteste Paris, il déteste ne pas pouvoir sortir facilement dans le jardin. Ce qui est...
Et dans le style empire, priorité au fonctionnel et au confort, on doit au style napoléonien les fauteuils de bureaux rotatifs,
oui,
sur lesquels nous sommes assis là, en ce moment, par exemple.
Absolument.
On voit ça à Napoléon.
C'était le premier qui était fait pour son bureau aux Tuileries.
Oui. Et il aime les petites innovations qui simplifient son quotidien, les petites innovations en matière de mobilier.
Oui, alors une fois il l'a trouvé. Alors il se lave beaucoup, donc il faut qu'il ait un lavabo. Le lavabo qui a été fait par Marcion et avec un vase de Sèvres, avec une cuvette de Sèvres par-dessus. Il adore tout ce qui est fait à Sèvres. Et alors on le répète partout. Il a fait dessiner un meuble pour qu'on appelle un sono pour avoir la table de nuit avec un bidet dedans. Et ça c'est parfait. Alors on le répète partout. Et après il a des canapés, des petits canapés qu'il trouve très bien parce qu'il peut s'allonger, parce qu'il prend des petits repos de temps en temps.
Les méridiennes.
Des méridiennes, mais ce sont des méridiennes particulières avec un haut dossier et il peut mettre les jambes par-dessus où il se repose et voilà. Enfin, il invente le canapé moderne. Il y avait des canapés au XVIIIe siècle, mais là, c'est des canapés où on peut s'avachir.
L'or, c'est pour vous, Philippe Costamagna. Vous écrit, je ne comprends pas votre invité qui dit que Napoléon ne supportait pas les mauvaises odeurs, mais ne disait-il pas à Joséphine dans ses lettres de ne pas se laver avant son retour?
Alors non, ça
c'est une légende, ça.
Non, ça n'a rien à voir avec Napoléon. C'était Henri IV avec
voilà,
avec
c'est
Marie
ça.
De Médicis.
C'est ce qui me semblait aussi. C'est ce qui me semblait.
Et,
voilà.
Et non. Voilà. Il avait vraiment, je pense.
L'or a confondu Henri IV et Napoléon.
Et je pense que Napoléon, Joséphine se lavait beaucoup pour pas déplaire à Napoléon.
Tiens, que reste-t-il des goûts culinaires de Napoléon aujourd'hui? Je pense évidemment au veau maringot, qui fut d'abord un poulet maringot.
Oui, c'était un poulet. Alors Napoléon.
C'est quoi le veau maringot en quelques mots?
Ça s'est passé à Maringot. Il y avait donc le pauvre cuisinier de Napoléon. Sont toujours les mêmes, toute cette fidélité dans les personnes qui le servent. Arrive, il n'a plus grand chose. Il avait un peu d'huile d'olive, un peu de beurre, des morceaux de poulet. Il a trouvé des tomates. Il a mis un peu d'alcool dedans et des œufs. Il a tout mélangé. C'est devenu. C'est vraiment parce qu'il n'y avait rien d'autre. Et Napoléon n'aimait pas les choses D'abord, il n'aimait pas rester à table. Ça, c'est au-delà du légendaire. Même dans les
dîners. Il mangeait très vite.
Il mangeait très vite en 10 minutes. Et les dîners de famille qui étaient le dimanche soir, ça durait 20 minutes. Et même Eugène, son beau-fils, le fils d'Hortense, disait, il vaut mieux se nourrir après ou avant, parce que de toute façon, comme on est servi en dernier, on n'a rien. Il faut se lever quand l'empereur se lève et on s'en va. Donc,
allez, dans quelques instants, je vous propose de parcourir une route de légende, la route Napoléon. Et en attendant, on écoute Clara Luciani.
Je ne suis qu'une imbécile, allongée sur le dos, je me refais le film. Le début était beau, puis je t'imagine jouer sur ton piano une mélodie, expire dans un écho. Je sais, j'ai tout gâché. Je ne peux pas oublier ton cul et le grain de beauté perdu sur ton pouce et la peau de ton dos. Le reste, je te le laisse, mais je retiens en laisse le souvenir ému de ton corps nu. Le reste, je te le laisse. C'est mon souvenir qui palpite encore, qui va bientôt mourir. Est-ce mon pauvre cœur qui a tout inventé? Étais-tu ici? M'as-tu au moins aimé? J'ai tout gâché. Je sais, j'ai tout gâché. Le reste, je te le laisse. Perdu sous ton pouce et la peau de ton dos. Le reste, je te le laisse, mais je retiens en laisse le souvenir ému de ton corps nu. Je reste amoureuse d'une idée qui s'éteint, figée à jamais dans un miroir sans teint, d'où je te regarde t'en sortir à merveille, épier ton bonheur. Me le rend moins cruel. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse.
Clara Luciani interprétait Le Reste.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rebéi.
Vous savez, vous, ce qu'a fait Napoléon?
Très bonne question. Qu'est-ce qu'il a fait?
Alors là...
Le code civil. Pour moi, c'est son œuvre majeure. D'ailleurs, il disait lui-même que c'était sa plus grande œuvre.
Le Code civil, c'est en effet sa réalisation la plus fameuse, encore aujourd'hui, pour une raison assez logique.
Napoléon, avec le Code, instaure en France ce qu'on appelle l'état de droit. C'est-à-dire que tout est régi par la loi. Un exemple concret, c'est nous avons Napoléon en nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Puisque les successions... telles qu'elles ont été définies en 1804, sont encore largement applicables aujourd'hui.
L'époque napoléonienne, c'est un carrefour. Entre la monarchie, la révolution, l'empire donc, et la république. Sous Napoléon, beaucoup de choses se créent, parmi lesquelles la police et la gendarmerie nationale, le corps des sapeurs-pompiers, ou la Légion d'honneur. Et ce n'est pas tout.
Par exemple, pour Paris, Napoléon a de nombreuses idées. Vous allez le voir, tout part de la Seine. Il fait numéroter les bâtiments. Paire à droite, un paire à gauche, et le numéro 1 de chaque rue est forcément pour la maison ou l'immeuble le plus proche de la Seine.
Extrait d'un reportage diffusé sur LCI le 5 mai dernier. Arthur Chevalier, Philippe Costamagna, on en parlait hors antenne, sur l'apport de Napoléon en matière de sexualité et notamment d'homosexualité. Arthur Chevalier.
Oui, alors l'homosexualité a été dépénalisée sous la Révolution française, et donc de même que les femmes n'avaient plus de droits, les homosexuels désormais en avaient un, en tout cas au moins celui qu'on puisse leur foutre la paix, quoi. Et donc Napoléon l'a gardé dans le code civil, et il y a à un moment donné Bref, il y a des remontées qui viennent de la police, qui arrêtent parfois les garçons dans les rues, et qui en fait disent, mais on n'a pas de disposition, donc comment est-ce qu'on fait? Et donc, il y a une note qui existe aux Archives nationales, rédigée à la demande de Napoléon, et Napoléon fait dire explicitement, que, à l'attention de Cambacérès, que si la loi ne s'occupe pas de ça, c'est parce qu'il n'a pas souhaité qu'elle s'en occupe. Donc, évidemment, vous me direz, ça pourrait être perfectible et ça pourrait être mieux. Mais déjà, enfin, ce que je veux dire, c'est que, disons qu'au regard du contexte et de l'époque, c'est plutôt pas mal, quoi.
Bonjour Jean-Paul Nadéo.
Eh bien, bonjour.
Je suis ravi de vous accueillir. Vous publiez Éternelle route. Napoléon, c'est publié chez Gronde. Vous êtes passionné par cette route. Elle relie Golfe-Juan à Grenoble. Pourquoi l'appelle-t-on route Napoléon? Expliquez-nous en quelques mots, Jean-Pierre Nadéo.
Alors, d'abord, il faut souligner que Napoléon n'a pas de rue dans Paris, en dehors de la rue Bonaparte, là. Mais il a une grande route qui s'appelle la route Napoléon. Alors, cette route, elle a été empruntée par l'empereur le 1er mars 1815, au retour de son exil de l'île d'Elbe. Il a choisi de remonter par les Alpes et de traverser toutes les préalpes, les Alpes, la Provence, et arriver à Grenoble, là où se termine la route de Napoléon, pour remonter à Paris et reprendre le trône de France. Voilà. Et cette route a été baptisée route Napoléon en 1932. Ça a été la première route historique, je dirais, qui porte un nom d'un de nos empereurs, de notre empereur Napoléon Bonaparte.
Et à quoi ressemble la route Napoléon aujourd'hui?
Alors, c'est une route qui est absolument magnifique, qui est très entretenue. Il y a une association qui s'appelle la NERN et qui est l'Association nationale des élus de la route Napoléon qui entretient la route, qui s'occupe de sa promotion. Elle est remplie de stèles, d'endroits où Napoléon s'est arrêté. Les hôtels où il a dormi. C'est une route qui est magnifique, qui serpente à travers les Alpes, à travers la Provence. En ce moment, c'est les cigales qui arrivent, les lavandes qui commencent à fleurir. C'est une très très belle route et qui va être, je le pense, cet été, très primée par les Français qui vont peut-être pas partir très loin à l'étranger et qui vont emprunter cette route.
Un endroit magique que vous affectionnez sur cette route Napoléon, Jean-Pierre Nadéo?
Jean-Paul Nadéo.
Jean-Paul, pardonnez-moi. Voilà. Pardonnez-moi.
Écoutez, partout, il y a des endroits magnifiques. Vous avez, bien sûr, la ville de Castellane, vous avez la ville de Digne-les-Bains, vous avez Sisteron avec sa magnifique citadelle. Mais il y a un endroit que j'apprécie particulièrement, c'est la prairie de la rencontre à Laffré, au bord des lacs de Laffré. C'est là où s'est jouée une grande partie de notre histoire de France. Les troupes de Louis XVIII étaient venues pour arrêter Napoléon. Il l'avait mis en joue et là Napoléon est descendu de son cheval, s'est approché d'eux et a dit cette phrase magique: soldats, reconnaissez-vous votre empereur, si quelqu'un veut m'abattre, je suis là. À ce moment-là, les troupes ont jeté les armes, se sont jetées dans ses bras et là, on ne peut pas imaginer qu'un seul coup de feu aurait changé le cours de l'histoire à cet endroit-là. Et c'est un très bel endroit, une très belle prairie avec des lacs autour, la montagne, le grand cerf au-dessus, l'Aubiou qui est le plus gros sommet du Dauphiné et cette région qu'on appelle la Matésine qui est absolument superbe.
Et une belle idée de balade pour cet été. Je rappelle le titre de votre livre, Éternelle route Napoléon, Jean-Paul Nadéo, et c'est publié chez Gronde. Merci Arthur Chevalier. On peut visiter l'exposition Napoléon à la Grande Halle de la Villette jusqu'au 19 septembre et on peut lire votre Que sais-je, Napoléon et le bonapartisme. Merci Philippe Costamagna. Les gouttes de Napoléon est publié chez Grasset et vous pouvez écouter le podcast de Philippe Collin, Napoléon, l'homme qui ne meurt jamais. Ce podcast sera diffusé cet été tous les dimanches à 17h. À demain dans Grand Mag Fasse Loisir.